Débutons l'émission en compagnie de Clément de Gaulle-Jacques, rencontré au sujet de son livre lancé le 20 avril dernier à la librairie Le Port de Tête et au sujet de son exposition à Plein Sud, titrée « Les maîtres du monde sont des gens ». C'est une exposition critique qui se poursuit jusqu'au 9 juillet. Alors, juste pour vous mentionner que la publication a été éditée par les presses de l'Université de Montréal. Alors, voici cette entrevue en question. Toute une période de haute visibilité pour Clément Gaulle-Jacques, qui est artiste, auteur, blogueur, illustrateur, bien connu du milieu visuel montréalais. Alors, il a publié récemment un nouveau livre, Tout chose édition Pume, Terrain vague, lancé à la librairie Port de Tête, titré « Tu vois ce que je veux dire » et illustrations, métaphores et autres images qui parlent. Une publication en lien avec ses recherches doctorales ou études en études et pratiques des arts à l'UQAM qui s'intéresse à la portée et aux limites du langage, j'oserais ajouter de l'image, et avec une approche ludique. Il présente depuis une exposition intitulée Les maîtres du monde sont des gens à Plein Sud. Et c'est une exposition commissariée par Marie-Hélène Leblanc. Bienvenue Clément Gaulle-Jacques.
Bonjour, oui, merci.
Alors, si il y a une question qui me brûle d'emblée en commençant, d'où vous est venu ce grand intérêt pour le langage, les images, évidemment, on peut penser que c'est en lien avec votre domaine d'illustrateur, mais aussi les métaphores. D'où vous est venu cet intérêt? Est-ce que ça remonte à loin? Est-ce que c'est un intérêt qui vous habite depuis longtemps?
Ah ben, je pense que oui. Je pense que le langage est très présent dans mon travail, dans tous les aspects de mon travail, que ce soit mon travail d'artiste, mon travail d'illustrateur ou plus récemment mon travail de théoricien, dans le sens que je réfléchis par les moyens du discours aux problèmes qui se posent dans ma pratique artistique. Et donc oui, l'intérêt pour le langage est premier. J'ai toujours eu une approche visuelle de ces questions-là, et c'est pour ça que la métaphore, dans le fond, j'en ai fait le cœur de ma réflexion, pour deux raisons. À la fois parce que la métaphore, c'est quelque chose de à la fois qui relève de l'ordre du langage et du visuel, hein, c'est une image verbale, et donc j'ai décidé de traiter sur un même plan les illustrations visuelles et les illustrations verbales, donc les métaphores, qu'on utilise en renfort d'un discours, c'est-à-dire qu'on utilise non pas pour un ornement poétique, mais pour faciliter la compréhension d'une idée. Parce que le livre s'appelle « Tu vois ce que je veux dire ?» mais il aurait pu s'appeler « Peut-on voir une idée ?» Et dans le fond, c'est parce que c'est un livre qui essaye de répondre à des problèmes que je me pose en tant qu'illustrateur dans le cadre de mes nombreuses commandes. C'est-à-dire que moi, je suis un illustrateur qui travaille sur commande et qui travaille souvent dans des contextes engagés aussi. Et puis, je crois qu'on en parlera après.
Oui.
Et donc, il s'agit de... c'est des illustrations qui interviennent dans l'ordre du discours, c'est-à-dire pour essayer de convaincre dans un argumentaire et souvent dans des réponses à des discours auxquels je m'oppose, des discours de droite, disons-le, ou des discours ultralibéraux. Et donc, comment les images peuvent jouer un rôle. Et donc j'ai voulu me plonger au fondement de cette idée-là. Et donc au fondement de cette idée-là, il y avait justement des questions de liées à la métaphore, liées
que vous décortiquez, hein, vraiment, que vous approfondissez de façon admirable.
Oui, c'est ça. Par exemple, je me suis demandé les métaphores, c'est étrange parce que pourquoi on s'excuse toujours d'en faire une, surtout si elle est très bonne.
Oui.
Alors que, surtout si elle est très bonne, on dit pour vous permettre de comprendre, je vais faire une métaphore. Excusez-moi, comme si c'était une figure ou en tout cas une stratégie de discours dévalorisée par rapport au raisonnement, par exemple. Et moi,
souhaite capter l'attention.
Ben, qui non seulement capte l'attention, mais donne de la vitesse à l'entendement. Une métaphore, souvent, c'est ce qui permet de bien comprendre ou un exemple. Mm. Bon. Et donc, j'ai voulu me demander pourquoi c'est dévalorisé. C'est une des questions qui est traitée dans le livre. Mais par ailleurs, j'ai voulu montrer aussi que Les métaphores, si elles donnent de la vitesse à l'entendement, elles peuvent projeter la pensée dans une mauvaise direction aussi. Et justement, c'est l'aspect toxique peut-être de... c'est pour ça que j'ai voulu traiter... puis je parle aussi beaucoup des stéréotypes qui sont comme des images figées dans le langage.
Ils sont très mal vus, actuellement.
Actuellement.
Mais ce n'était pas toujours le cas, selon vous, dans l'histoire.
Non, quand je fais l'histoire du stéréotype, c'était de dire que c'est des figures qui... Non, je pense que ça a toujours été mal vu, mais je pense que quand j'en fais l'histoire, c'est que j'essaye de montrer que, en fait, pareil, en revenant aux racines de ce que c'est, j'essaye de montrer que justement dans un travail d'illustrateur, par exemple, c'est très difficile de s'écarter complètement du stéréotype, du cliché, du lieu commun, dans le sens que pour être compris, il faut se baser sur des éléments qui font consensus dans le sens commun. Comment, en tant qu'illustrateur, il faut convoquer des stéréotypes, mais pour les remettre en jeu, les remettre en scène d'une façon qui les réoriente. Parce que je pense que le stéréotype, c'est une image figée dans le langage, mais qui est pas mauvaise en soi. En fait, qui va dépendre de ce qu'on en fait. Si on l'utilise au premier degré pris dans son cliché et incapable de le manipuler, là il nous attire dans sa poisse, si j'ose dire. Mais il y a moyen aussi de le prendre et puis de lui donner une orientation. Et
j'apprécie énormément les illustrations que vous faites dans votre livre, des exemples que vous donnez qui, comme vous parlez d'une enseignante qui vous a marqué par un exercice, où là, il y a Charlie Hebdo, vous dites que, bon, Charlie, où les gens se sont précipités pour avec des clichés pour suite à la tragédie, mais vous avez relevé quelques bons coups dans cette réaction très émotive.
Mais ce qu'il y a, c'est que dans mon livre, j'essaye de réussir. c'est lapsus. Oui. J'essaye de réussir à réfléchir sur des questions fondamentales, mais j'essaye aussi beaucoup de les illustrer par des exemples. Une école de dessin qui m'a beaucoup influencé, si je puis dire comme ça, qui était même les dessinateurs de la génération de mes parents, des années 60, que j'ai beaucoup lu enfant, qui étaient l'esprit libertaire absolument, justement, qui dynamitait le sens commun complètement, en utilisant le dessin. Enfin, en tout cas, ça m'a beaucoup influencé. Mais j'ai vu là aussi une espèce de lente dérive droitière de ce journal-là, puis qui m'a toujours un petit peu affligé. Donc déjà ça c'est une chose, et puis l'autre chose c'est quand évidemment les assassinats sont survenus et que ça m'a bouleversé, enfin je veux dire je me suis rendu compte que à quel point politiquement il s'était joué là un point de bascule et donc ça m'a bouleversé, mais j'ai vu surgir justement dans la foulée des meurtres des dessins hommages aux dessinateurs de Charlie Hebdo, puis je me suis étonné du fait qu'ils étaient souvent représentés dans les nuages avec des petites ailes comme des angelots, puis je trouvais que c'était intéressant le retournement drastique c'est les dessinateurs de Charlie Hebdo, ils étaient quand même spécialement connus pour leur anticléricalisme, puis là tout d'un coup les voilà représentés dans des figurations d'un type très religieux et c'est typique justement, je trouve, un stéréotype qui n'a pas réussi à être tourné, qui n'a pas réussi à être ou plutôt que retourner, là je dirais
surmonter avec lequel les gens n'ont pas pris de la distance. Ce que vous avez mentionné, c'est l'importance que certaines illustrations soient confrontantes avec le peuple français.
Mais je ne sais pas si je suis un dessinateur qui cherche la confrontation, mais qui cherche en tout cas certainement la problématisation, c'est-à-dire comment un dessin qui est une mise en scène de, et là je reviens peut-être à la réflexion fondamentale du livre, qui est une mise en scène qui met en scène le langage, qui met en scène les mots dans leur potentiel dialectique, comment ce genre de dessin de presse peut être un espace pour problématiser une question complexe, c'est-à-dire en la réduisant à sa plus simple expression, donner à voir une complexité, et éventuellement les dessins qui deviennent dans ma réflexion un peu des dessins imaginaires, je vise personne, mais ces dessins où on voyait les dessinateurs dans les nuages, il me semble échouer à problématiser ce qui venait de se passer, parce qu'il mettait
ce qui appartenait aussi au peuple français là.
Oh, je sais pas, mais en tout
dans
cas,
la dynamique.
En tout cas, il mettait dos à dos, je trouvais, des gens bons qu'auraient été les dessinateurs, le peuple français, ouvert à la liberté d'expression, et des imbéciles. Alors, je dis pas que, je pense à aucun moment que les terroristes avaient raison. À aucun moment. Ouais. Je suis scandalisé par ce qui s'est passé. Mais je pense que si les dessins de Charlie Hebdo, moi, m'ont appris quelque chose, c'est qu'ils cherchaient avant tout à chercher l'idiot qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que justement à confronter, et à bâtir un idiot identitaire qui serait l'autre. Et ce que je trouvais intéressant, en tout cas, moi, la leçon, si leçon il y a, que j'avais appris avec ces dessinateurs-là, c'est que le bon idiot, c'est celui qu'on a à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est le crétin en nous qu'il faut faire parler, mais y compris pour lui faire dire des choses intelligentes et qui font avancer la pensée. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à partir de là qu'une réflexion intéressante peut naître. Je citais justement des dessinateurs assassinés qui s'appelaient Tinius, et puis il disait alors je sais plus, ça fait la citation
mais
exacte,
c'est dans le livre,
je me souviens plus, mais il disait qu'un bon dessin, c'est un dessin qui fait rire, mais tout de suite après on a honte d'avoir ri de ça, et puis là tout de suite on se demande pourquoi, et puis enfin en tout cas je me souviens plus de la citation exacte, mais en tout cas j'avais trouvé que c'était très juste.
Tout à fait. Alors c'est très intéressant, mais là je vais m'adresser peut-être aux théoriciens. Vous poursuivez dans votre publication sur une certaine critique de la pensée rationnelle, qui a malheureusement contribué à rompre le lien entre l'image et le mot, alors qu'à une époque lointaine, l'oral, l'image et les mots se fusionnaient. Je vous perçois comme un fervent adepte de l'image parlante, c'est-à-dire de l'image qui peut combiner des matériaux visuels et verbaux, pour, j'imagine, procurer une expérience plus enrichissante et se rapprocher davantage de la réalité. Est-ce que c'est le cas?
Je ne sais pas s'il y a une époque lointaine où les choses étaient différentes, mais en tout cas, je vais tenter d'y répondre. Mais c'est vrai que quand vous dites, c'est une question théorique.
C'est une époque qui revient, là. Qui revient.
En tout cas, c'est une question théorique qui m'a intéressé parce que je me suis demandé, je pourrais partir de cette expression quand on dit un petit dessin vaut mille mots, une image vaut mille mots, ou un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, etc. Bon. Moi, en fait, je me suis demandé, dans la pensée, est-ce qu'on pense verbalement ou visuellement? Alors ça, en effet, c'est une vieille question. Puis, j'ai essayé de réunir comme ça des notions théoriques autour de ce questionnement, puis que j'illustre justement par la mise en scène d'une dictée de dessin qu'avait eu lieu dans mon école secondaire.
C'est un moment fort du livre, qui m'avait
marqué. Oui. Donc je pars de cette scène, dont je fais une scène originelle pour réfléchir, est-ce qu'on peut dicter un dessin, par exemple? Et là, de voir à quel point c'est vrai que l'ordre visuel et l'ordre verbal sont des ordres hétérogènes. Pour autant, Je nuance cette opposition assez vite en disant que, en fait, mais dans la pensée, ces deux ordres sont absolument pas séparés, et on mélange en permanence l'un et l'autre. Et tout ça m'amène finalement, plutôt que d'avoir une posture de grand théoricien là qui voudrait assigner des choses, c'est plutôt pour réfléchir à ce que je fais. Et je me suis rendu compte, ce faisant, que même si j'agis comme illustrateur, et puis je me définis comme illustrateur, puis je parle de mes affiches comme de mes dessins. Dans le fond, je remarquais que c'est vraiment dans l'ordre du discours que j'interviens. C'est-à-dire que le dessin sert à mettre en scène la pensée, à mettre en scène les contradictions à la fois dans la pensée, mais les contradictions politiques aussi, parce que c'est quand même à ce titre que j'utilise beaucoup, enfin à ce titre ou dans ce but que j'ai une grande partie de mon activité d'artiste est de produire du dessin satirique, de l'affiche politique, dans lesquelles plutôt que d'illustrer positivement une idée, même si c'est une idée négative, j'essaye de problématiser cette idée, c'est-à-dire de la mettre en scène dans ses contradictions. Et souvent, mes dessins, donc, vous voyez, dit mes dessins, sont des réponses. Et comme un dessin peut être une réponse...
Et ça, c'est votre approche, vous misez sur la contradiction comme un exercice très enrichissant.
Oui, la contradiction, où dans le livre, je parle de petites machines dialectiques pour justement décrire mes œuvres, c'est-à-dire des œuvres qui arrive à identifier dans un problème le noyau dur la contradiction, comment dire, initiale. Je parle dans toutes les études de cas qu'il y a dans le livre, je parle de comment des images logent en elles une querelle. Et c'est exactement ça, parce que querelle, pour moi, c'est une autre manière de dire une contradiction. Et si je parle de petite machine dialectique, c'est parce que pour moi, la dialectique est une manière de penser que d'un point de vue théorique, là, je fais remonter à Héraclite. Pour les grands noms, mais peut-être plus précisément encore à un artiste qui est comme un grand frère, si on veut, inspirant, là, pas du tout, je l'ai jamais rencontré, c'est d'une autre génération, mais qui était Robert Filliou, et qui je trouve était comme un maître zen en pensée dialectique, c'est-à-dire dans la capacité de créer des petites formes, des petites fables qui très parlantes, ou en tout cas qui dynamisent la pensée, c'est-à-dire qui, lui, il est très très connu pour sa phrase célèbre, l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art, et je trouve que non seulement cette phrase est formidable, elle a été beaucoup citée, mais elle est une bonne illustration de ce que j'entends par la pensée dialectique, c'est-à-dire que tout d'un coup la phrase se contredit elle-même à l'intérieur de sa, comment dire, de sa, à même sa syntaxe même, mais plutôt que de conduire à une aporie, c'est-à-dire à une impasse de la pensée, elle est un propulseur pour la pensée. Et alors ce que j'essaye de faire très modestement, c'est de créer de ces petites formes dialectiques.
Et vous citez un artiste très, très bien connu qui utilisait naturellement la dialectique. C'est un comédien, un célèbre comédien.
Ah oui, je citais un exemple parce que dans le livre, j'essaie que le livre ressemble au livre que j'aime lire, c'est-à-dire que il y ait beaucoup d'exemples. Moi, j'ai besoin de ça pour penser. Et donc, j'ai cité un humoriste qui était connu en France quand j'étais enfant, qui s'appelait Coluche, et donc qui disait.
Il faut dire qu'il était très aimé par les Français.
Oui, il a été très populaire. Et la citation, c'est quelque chose comme « il y en a qui sont plus égaux que d'autres ». Je crois, c'est ça. Puis ça, c'est une phrase qui m'est restée, qui vient de mon enfance, justement.
C'est
le genre de phrase qui à la fois qui a une contradiction dans les termes, parce que évidemment on peut pas être plus égal que quelqu'un, mais dans la réalité oui, on comprend très très bien, et là ça revient au titre de mon livre, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que dans le fond je pense que le sens des mots, le sens du et jamais déposé dans le langage. Le sens, c'est quelque chose qu'on active. Le sens, c'est quelque chose qu'on oriente, qu'on propulse. Et ça, c'est sans doute.
Et c'est à travers les différentes significations qu'on obtient une certaine relative vérité.
Je ne sais pas si c'est une vérité, mais c'est une.
Qu'on se rapproche de la vie.
Moi, je ne sais pas si je cherche la vérité, mais je pense que je cherche la mise en route de la pensée. Et après, si les gens ils s'en servent pour. Si on s'en sert pour. Je pense que quand on se met à penser, on s'en va vers la vérité à peu près. Là, je veux dire, je pense que la bêtise, c'est
qu'on évite le piège des fausses apparences.
Je pense que la bêtise, c'est quand on arrête de la machine à réfléchir. Donc après, je pense que dès lors qu'on se met en route, bon, on va quelque part. Puis après, ça c'est l'aventure de chacun. Ça, c'est plus de mon ressort après. Oh, oui, c'est ça.
Alors, vous parlez beaucoup de votre expérience, vous comme artiste, comme illustrateur, vous analysez vos propres, vous transmettez vos propres réflexions. Alors, comment vous souhaiteriez que la communauté artistique s'approprie ce livre qui est d'intérêt, admirablement écrit, hein, soit dit en passant?
Ah, ben merci. pour moi, c'est un livre qui m'a d'abord, avant tout, servi à moi-même à comprendre beaucoup de choses, c'est-à-dire à les m'outiller pour comprendre des choses que je faisais naturellement. Mmh. Enfin, naturellement, c'est-à-dire dans
vous
ma pratique.
Vous avez parlé de deux types d'artistes, deux statuts d'artistes.
Ah oui, ça c'est une métaphore justement que je fais au début du livre où j'oppose, j'essaie de me décrire comme artiste à mi-chemin. En fait, j'active une métaphore qui vient d'une une notion historique très ancienne là, et puis très très presque enfantine où il y avait le clergé régulier et le clergé séculier. Et donc le clergé régulier, ce qu'on nous apprenait, c'était que c'était le clergé des règles, c'est-à-dire ceux qui dans les monastères recopient la Bible et puis ont une réflexion théologique et vivent retirés du monde. Puis il y avait le clergé séculier qui était celui des on dirait des curés, je dirais, ou de, enfin, en tout cas les religieux qui vivent dans le monde parmi les gens,
très actifs, là, c'est
qui
ça.
Font les enterrements, les messes, les mariages et tout ça. Puis et donc eux, ils sont séculiers par opposition aux réguliers parce qu'ils sont dans le siècle. Et je trouvais que la métaphore, elle était vraiment parlante pour expliquer un double positionnement artistique et à la fois de réfléchir dans le monde des règles, dans le monde de l'art. Mais en même temps, moi, comme artiste, j'ai eu envie à un moment de bifurquer et d'aller justement dans le siècle et de mettre mes formes artistiques un petit peu au risque justement du sens commun.
C'est une invitation que vous transmettez à la communauté.
Oh ben non.
Cette encore, expérience.
Encore une fois, c'est quelque chose de très très personnel et j'ai de leçons à donner à personne et encore moins à ma communauté.
Oui.
À personne tout court.
C'était une musique de Vincent Perrigny, de Joker, un des rares groupes français en programmation du Festival international de jazz de Montréal, lundi prochain, le 4 juillet, 20h, à la Place Tranquille. Et nous poursuivons cette entrevue de grand intérêt avec Clément de Gaulle-Jacq.
Mais pour revenir peut-être à votre question, justement, c'est pas un livre que j'ai écrit pour... Oui, je m'adresse à ma communauté, oui, je m'adresse au grand public, oui, je m'adresse à quiconque se pose des questions. En fait, je pense que c'est un livre que j'ai écrit en puisant dans mon expérience artistique ce que je pensais d'intérêt à partager. Après, je laisse le lecteur ou la lectrice libre d'avoir envie de le partager aussi, mais je pense vraiment c'est un livre de théorie de l'art, mais c'est un livre de théorie de l'art ouverte, c'est-à-dire que je pense que pour moi l'art c'est un moyen de vraiment de réfléchir le monde, et donc c'est-à-dire que je réfléchis pas sur l'art, c'est pas un livre d'histoire de l'art, j'utilise les moyens de l'art, qu'ils soient pratiques ou théoriques, pour réfléchir le monde. Alors voilà, le livre est à l'image de...
L'histoire de l'art aussi, hein, il y a quelques jalons d'importance, réfléchissez avec nous sur quelques jalons d'importance, en tout cas il vaut abondamment en question de Platon et d'Aristote.
Il y a beaucoup de disciplines sont mobilisées dans le livre, à commencer par l'histoire de l'art, et la philosophie, je pense.
Toute une bibliographie.
Je pense que l'histoire de l'art, l'histoire des formes est mobilisée, la philosophie aussi est mobilisée en tant qu'elle est quand même un espace de réflexion incontournable sur le langage et sur les images, la linguistique aussi est mobilisée, l'anthropologie on pourrait dire, mais je tiens à dire que c'est un livre... C'est un mot à la mode, mais c'est un livre résolument interdisciplinaire dans le sens où je ne pense pas qu'il s'inscrit dans une discipline. Moi, je suis quelqu'un de très très éclectique, de très curieux, et je pense que j'écris plus comme un lecteur que comme quelqu'un qui veut marquer un jalon dans une discipline. Et donc, comme lecteur, je picore, mais c'est un peu plus que ça, je pense. J'essaie de mettre en relation. J'essaie vraiment de penser de manière indisciplinée, littéralement, c'est-à-dire de mettre en relation les notions propres à un champ particulier dans un autre champ. Mais j'essaye de le faire de manière probe. J'essaye de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. J'essaie vraiment d'activer ces notions et de voir comment elles peuvent m'aider, moi, à penser les problèmes que je rencontre.
C'est très intéressant. Un livre que je recommande, vraiment, la lecture était des plus agréables. En terminant, on va parler aussi d'un autre événement qui est en cours actuellement à la Plaine Sud jusqu'au 9 juillet. Alors là, c'est un tout autre Clément Gault-Lejac qui nous présente une exposition bien différente, plus qui présente un artiste plus engagé, très engagé.
Alors oui, c'est une exposition.
Le maître, je m'excuse, je vais parler du titre. Les maîtres du monde sont des gens, et par extension, je pense que ça parle de fin du monde.
Ah oui, donc en effet, c'est une exposition qui a lieu en ce moment au Centre Plein Sud et qui avait déjà été montrée. Sous une forme un petit peu différente, il y a 2 ans à la galerie Huco à Gatineau. Et alors, donc là c'est une exposition, donc là oui, en effet, c'est en tant que plus qu'artiste que j'interviens, et c'est une exposition dans laquelle je me suis posé la question, justement mon activité d'artiste engagé est beaucoup sur le terrain du langage, de réponse à des affirmations politiques. Et là je me suis demandé
On retrouve langage et images réunis dans cette exposition.
Non. En fait, dans l'exposition, j'ai essayé de... C'est-à-dire que depuis quelques années, mon engagement est beaucoup sur le terrain de la bataille climatique. Et donc, que ce soit par opposition au système capitalisme et à la manière dont il l'exploite, et au système extractiviste même, dont on pourrait dire, au système dont il l'exploite le monde et les gens, on dirait, comme on a l'impression qu'ils veulent faire jusqu'au boule, jusqu'à ce qu'il reste plus rien, d'une part, et d'autre part le terrain des discours de déni, en fait, ou de modération par rapport à cette catastrophe qui nous guette, que sont les changements climatiques, enfin qui nous guette, c'est cette nouvelle ère dans laquelle on est rentré, qui est celle des changements climatiques. Et souvent cette activité de réponse, elle est sur le terrain du langage. Et là, dans l'exposition, je me suis demandé comment je pourrais faire en tant qu'illustrateur, en tant qu'artiste, pour représenter ces mêmes question, mais sans justement le support langagier, et surtout le support contextuel, c'est-à-dire d'être moins dans une activité de réponse immédiate à quelque chose qui vient d'être dit, mais dans une figuration un peu plus atemporelle. Et pour ce faire, donc, je suis allé chercher une figure bien connue, qui est celle du déluge, celle de la fin du monde, et j'ai eu envie de représenter, ou en tout cas de problématiser, encore une fois j'ai utilisé ce mot-là, cette idée de fin du monde, avec derrière cette double idée, l'idée que c'est une idée forte. On est tous pris dans cette impression qu'un monde est en train de finir. Il y a une phrase qui est
période post-pandémie,
qui est au cœur de l'exposition, qui dit pourquoi il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. C'est vraiment une question que je me suis posée activement dans l'expo. Donc j'active cette question de la fin du monde, et en même temps j'affirme dans le même souffle que cette question, je la trouve qu'elle nous rend stupides. En fait, je pense que c'est une idée qui nous rembête, la fin du monde. D'une part, parce qu'on n'est pas du tout les premiers humains à se penser comme les derniers humains. C'est quelque chose qui revient et qui revient. On parlait de clichés.
C'est cyclique.
Justement, c'est la fin du monde, c'est un bon exemple de cliché que j'essaye de réinvestir et de relancer.
C'est intéressant. Et là, vous avez différentes séries d'œuvres sur place là, qui interreliées.
C'est ça. Il y a différentes séries d'œuvres interreliées. Donc, il y a une grande tapisserie qui s'appelle Au profond de bain bref. Et quand je dis grande, elle est vraiment grande parce qu'elle fait à peu près 15 mètres de long. C'est une tapisserie jacquard qui représente un paysage englouti.
Qui est à la fois, qui intègre à la fois des éléments d'actualité et historique.
Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a une galerie de portraits aussi des œuvres pour lesquelles je me suis inspiré d'une gravure que j'avais trouvée de Marie-Antoinette avec une coiffure extravagante, qui avait ses perruques, ses grandes perruques telles qu'on les portait au XVIIIe siècle dans la cour des maîtres du monde de cette époque-là. Et donc c'est une perruque tout en hauteur et qui représente une mer en furie dans laquelle est prise un bateau. Et cette gravure, en fait, m'avait beaucoup marqué parce que je trouvais qu'elle incarnait
la hauteur qui précède la chute.
Oui, on peut le voir comme ça, tout à fait. Ou ce genre de dialectique dont je parle, c'est-à-dire que je trouvais que l'image avait beaucoup de grâce, beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, et en même temps une grande vulgarité qui, quand on vient un peu aux sources de la vulgarité, c'est quoi? C'est de pas avoir idée de ce que les autres pensent de nous. Puis et là, donc ce que j'y voyais aussi, c'est ça, cette vulgarité de l'arrogance des ultra riches qui justement et le recul historique nous fait savoir aussi que cette image précède la chute. En effet, les fêtes à Versailles où l'on voyait ce genre de coiffure ont lieu à la veille de la Révolution, mais évidemment ils le savent pas.
Alors il y a une série de portraits vraiment magnifiques ici.
Mais c'est ça, j'ai voulu actualiser.
Qui font tout le tour de la salle d'exposition.
Oui, j'ai actualisé ces images-là, donc en réinventant, si on veut, des portraits, en les actualisant, c'est-à-dire que dans ces flots furieux que sont les perruques, j'ai intégré des bateaux ou en tout cas des éléments de notre modernité.
Et vous avez aussi une section vidéo qui est très intéressante, vraiment, j'ai été captivée. Ce sont des images qui vous ont servi pour votre grande murale.
Oui, c'est ça. J'ai voulu partager avec le public la documentation qui m'a servi à construire l'exposition, parce que moi, je travaille beaucoup comme ça pour faire mes illustrations, mes dessins. Je me documente beaucoup. Et c'est pas toutes les images qui me servent, mais cette documentation, elle est à la fois visuelle, c'est-à-dire quand je dois dessiner les choses, il faut bien que je sache comment elles sont dessinées, et puis il faut aussi que je constitue un univers mental. Et puis cet univers mental, j'ai trouvé, en tout cas, que qu'avec les centaines d'images que j'avais réunies, il y avait moyen de les monter pour faire un espèce de diaporama qui pouvait comme ça compléter, enfin partager l'univers mental qui avait servi à faire les œuvres. Donc je dirais que c'est pas vraiment une œuvre, mais c'est presque un cartel visuel, ou en tout cas une...
C'est sur des images qui peuvent être choquantes, là.
Oui,
quelques images choquantes.
Oui, absolument. Ouais. Je laisse les spectateurs découvrir, mais il y a des images de naufrages, de tempêtes. C'est des images qui mettent en relation l'élément aquatique avec l'élément construit, beaucoup.
Et là, vous avez une dernière vidéo qui est vraiment énigmatique, mais qui va, je pense, se concrétiser très bientôt dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve.
Ah oui, alors c'est la vidéo où on voit une botte, comme une botte de pluie, qui déborde d'eau continuellement. Donc c'est la botte qui est supposée être l'élément protecteur, si on veut, et lui-même envahi d'eau. Donc encore une fois, encore peut-être un autre exemple de ce genre d'événement minimal que j'essaye de créer, que j'appelle petite machine dialectique, là, qui sont comme une réduction à sa plus simple expression, un peu comme quand on réduit une équation mathématique à A au carré égale B au carré, c'est comme d'avoir, et donc là, je mets l'eau, la protection, la botte, le débordement, donc c'est comme une mise en scène minimale, un petit peu de la botte aussi comme élément martial, on pourrait dire comme élément d'affirmation, la botte de conquête aussi, ou, en tout cas, c'est la botte, c'est aussi ce qui nous relie au sol et dans la question, dans les questions.
Qui va éventuellement devenir une œuvre d'art public.
Ah oui, et tout à fait. Donc ce petit film en fait était la première matérialisation d'une idée que j'ai développée finalement pour un projet d'art public, une réelle fontaine que je suis en train donc un concours d'art public que j'ai gagné il y a 2 ans et il y a 3 ans maintenant, et qui visait à la création d'une fontaine pour être installée devant la bibliothèque Maisonneuve dans Hochelaga.
Très bientôt.
La fontaine va finalement être installée cet été, et donc ça rejoue cette idée, c'est-à-dire que j'ai conçu un socle en pierre qui reprend vraiment l'esthétique de l'ancien bâtiment de la bibliothèque, c'est-à-dire qui utilise la pierre grise de Montréal, donc un socle en pierre, tout ce qui est le plus classique, avec un chapiteau. Et sur ce socle, en fait, sont juchées une paire de bottes, comme si en fait il y avait eu là un grand homme et qu'on l'avait retiré. Donc c'est une sculpture qui met en route comme ça l'idée des déboulonnages tels qu'on a pu les vivre beaucoup récemment, les déboulonnages de statues, les déboulonnages de figures d'un ordre colonial remis en question à raison aujourd'hui. Et pour cette c'est vrai que c'est une des inspirations de cette fontaine, cette sculpture fontaine, c'était la statue de John McDonald au centre-ville, qui était en permanence vandalisée et puis en permanence restaurée, et je trouvais que ça m'avait donné l'idée, en tout cas l'idée amusante si on veut, ou pertinente j'espère, d'une statue qui s'auto-vandaliserait elle-même, c'est-à-dire que le monument n'est plus là pour rappeler à quel point l'homme grand était grand, mais pour comme il devient figure auto-contestée en permanence. Donc j'avais pensé comme ça une statue qui s'auto-vandaliserait et donc qui s'auto-aspergerait de peinture. Puis en réduisant cette idée-là, bah, je suis arrivé à l'idée de... Donc on a enlevé la statue, il ne reste plus que les bottes du grand homme, il s'est absenté, il est plus là, il est invisible, mais... La présence en creux est encore là, et la présence juste de sa contestation, c'est-à-dire de son auto-vandalisme, si on veut, là, quelque chose comme ça. Et puis bon, bah, la statue, elle est devant la partie des enfants dans la bibliothèque, puis ça, je trouvais ça bien important aussi de faire une sculpture qui puisse résonner dans leur imaginaire, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens à cet élément minimal, on porte des bottes pour avoir les pieds au sec, mais là, les bottes sont mouillées, alors... Moi, ça m'amuse.
Oui, tout à fait amusant. Et autre événement signalé d'importance, cette exposition, pour les personnes qui n'auront pas le temps de voir l'exposition d'ici le 9 juillet à Longueuil, à plein sud, elle sera réexposée. Elle fera halte en région de Longueuil, de Montréal.
Oui,
elle va bientôt en 2023.
En 2023, en février 2023, elle va être installée à nouveau au musée régional de Rimouski.
Alors voilà une belle occasion puis de se rendre à Rimouski, qui est une magnifique destination estivale. Merci beaucoup Clément de Gaulle-Jacques de m'avoir présenté ce livre très intéressant, très original. Tu vois ce que je veux dire, illustrations, métaphores et autres images qui parlent, ainsi qu'une exposition que je vous dirais de l'artiste engagé que vous êtes absolument à plein sud, cette exposition titrée « Les maîtres du monde sont des gens », commissariée par Marie-Hélène Leblanc. Merci, ça se poursuit jusqu'au 9 juillet. Merci de cet agréable entretien sous la pluie. Merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.